sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes bien à l'écoute de Midi et des Poussières, le nouveau rendez-vous pas tout à fait quotidien sur Radio Barthas. Et je suis accompagnée de Léo aux manettes. Salut Léo.
Salut Raphaël. Ouais, non, je suis de plus en plus en impro chaque jour, là ça va être difficile aujourd'hui
non,
si on fait la météo.
C'est juste salut, c'est très bien.
Salut.
Alors, juste pour représenter un peu cette émission qui débute cette semaine, voilà, l'idée c'est de passer un moment ensemble en direct, trois fois dans la semaine sur le temps du midi, pour raconter ce qui se passe par ici, donner la parole aux initiatives et aux projets locaux, aux mobilisations, aux événements qui s'organisent, pour donner la parole à toutes celles et ceux qui ont envie de venir nous raconter des choses. Et on parle aussi parfois de ce qui se passe un peu plus loin. Il y a des rubriques diverses et variées, des chroniques, des anecdotes. Ce sera jamais tous les jours pareil. Bienvenue dans Midi et des Poussières.
Midi et des Poussières sur Radio Barthas.
Et alors ce midi, on a eu une visite surprise, un invité surprise qu'on est ravis d'accueillir dans le studio. C'est Davy. Bonjour Davy.
Bonjour.
Donc tu es venu nous parler de l'Assemblée Générale de ton association qui s'annonce. Ce sera le 29 novembre prochain.
Oui.
Et ton association, c'est le Groupement des œuvres liquides. C'est vraiment un nom plein de mystères. On a envie de savoir ce que c'est. Explique-nous.
Oui, alors bon, c'est une association, c'est une brasserie associative en fait, qui a été créée en 2016. Le but, c'est vraiment c'est un groupe de passionnés de bière au départ qui sont réunis pour créer cette association, pour brasser de la bière ensemble. Au départ, on s'est regroupés, on a fait notre AG de fondation et on a décidé de faire des brassins participatifs où on invitait des gens à découvrir comment on produisait de la bière pour qu'ils produisent leur bière aussi et qu'ils repartent après avec.
Et ça se passe où?
Et alors ça s'est passé, donc du coup, là ça se passe maintenant à Colobrières. Donc avant on était plutôt vers Fayet, Florac et là c'est plus loin, quoi. C'est Colobrières sur la commune des Bondons. Donc maintenant on a un local au top, mais qu'on a depuis 2024, quoi, qui a été construit par Thibaut, un membre fondateur et très actif de la Gaule, là, qui a construit une brasserie
la
pour Gaule, nous.
La Gaule, le Groupement des œuvres liquides.
Ouais, on dit alors des fois on dit la Gaule ou le Gaule, ouais, il y a cette ambiguïté toujours, mais bon. Du coup, ouais, le Groupement des œuvres liquides. Et donc moi ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a cet AG qui arrive et donc on va essayer de relancer vraiment nos objectifs qui sont voilà, de partager, en fait c'est un lieu, cette brasserie associative où on se retrouve le matin pour brasser de la bière toute la journée, on partage nos connaissances avec Thibaut, il y a des gens qui viennent qui connaissent déjà un petit peu le brassin, les méthodes pour faire la bière quoi. Donc après on fait un petit repas partagé, voilà, et on... Bon, donc, du coup,
L'objectif, c'est de brasser ensemble. Donc,
c'est
en fait,
de brasser
pour que,
ensemble.
Pour que cet asso vive, il faut qu'il y ait du monde qui vienne et c'est ça l'idée.
Ouais, voilà. Alors, du coup, on a eu. L'idée, c'est vraiment que les gens saisissent de cette association parce que, bon, elle a marché pendant des années sur les brassins participatifs où les gens venaient et brassaient leur bière et repartaient, en fait, et ne revenaient pas si souvent que ça. On avait réussi à former des gens quand même pas mal, mais c'est parti plus sur un délire après soirée. On a organisé plein de soirées, là, entre 2016 et 2022. On avait fait pas mal de soirées avec la bière qu'on produisait. On a fait aussi pas mal de soirées avec des associations. Donc, il faut savoir aussi que les associations peuvent venir comme des parties donc pour brasser la bière pour leur association, pour leurs événements aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment...
Mais il y a des gens qui apprennent à brasser, parce que quand on arrive, on n'est pas forcément au fait de comment ça se passe. Du coup, vous êtes là pour accompagner les gens, pour expliquer, un peu donner un peu des tutos.
Ouais, voilà, en fait, nous, on avait même développé des petits graphiques, on a des petites affiches pour expliquer tout ça, et
des
toute
schémas.
La journée, des petits schémas, voilà, on a même un grand tableau pour présenter des fois des trucs un peu complexes, quoi, mais donc c'est là, dans les faits, c'est vraiment Thibaut et moi qui formons, quoi, et qui connaissons vraiment l'usage du matériel. Mais là, on a retrouvé un petit peu de vigueur, parce qu'on a des jeunes là, qui sont relancés un peu la sauce, là, en fait, parce qu'ils sont revenus, enfin, ils sont venus pour brasser, ils ont trop adoré. Du coup, là, on va relancer vraiment sur un mode, ce qu'on n'a jamais réussi à faire, sur un mode vraiment autoproduction, où on espère que les gens qui vont venir vont quand même devenir plus ou moins autonomes.
Okay. Et l'idée, c'est que ce soit régulier, c'est qu'il y ait une production régulière, ou là, c'est vraiment quand des gens viennent, ils font de la bière ou...
Ouais, voilà, parce qu'avant, on était sur un mode, donc ça, c'est ce que pas mal de Flora quoi connaissent, c'est-à-dire qu'on avait des calendriers de brassins, on était super organisés et on proposait des dates. Maintenant, donc, on n'a plus l'énergie là, pour aller racoler les gens, on attend plus que les gens viennent vers nous, quoi. Donc c'est pour ça là qu'on s'est dit que bon, on allait quand même, il y a eu même un moment où on pensait laisser tomber le projet associatif, mais là on s'est relancé grâce à cette bande de jeunes là et d'autres personnes qui de plus âgées qui veulent intégrer aussi l'association. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on a fait cet AG. Donc il n'y a pas eu l'AG l'année dernière. Après 8 années consécutives où on était quand même bien motivés, où les équipes ont changé, là il n'y avait plus personne, il n'y avait que moi et Thibaut, et on a ces jeunes. Et donc samedi là,
samedi 29
ouais,
novembre.
Ce samedi là, du à coup à Colobrière au Bondon, en fait, on fait un brassin dès 10h. Donc faut, si vous voulez venir pour apprendre à faire de la bière déjà ce jour-là, vous pouvez venir. Le mieux, c'est quand même de prévenir par mail par exemple à oeuvre-liquide@laposte.net pour le brassin participatif. Et après,
je mettrai l'adresse sur la page de l'émission.
Et après, pour l'AG, du coup, c'est à 18h. Donc là, si vous êtes membre d'une association, par exemple, et que là, vous avez entendu que vous pouvez venir faire de la bière avec nous, bah, venez, ça peut être pas mal de créer un lien à ce moment-là. Pour les particuliers là, qui se disent, c'est vrai, mince, moi, je bois pas mal de bière et j'aimerais bien avancer, bah, vous pouvez venir aussi pour qu'on fasse connaissance et que vous puissiez voir la brasserie. Donc vous pouvez venir à n'importe quelle heure de la journée. Si vous venez pour le repas de midi, par contre, bon, bah, nous, on n'a rien prévu, hein, la Gaule, c'est toujours comme ça. C'est un peu à l'arrache, du coup, il faut amener à manger. Et puis après, voilà, si vous voulez juste voir le lieu, Colobrière, c'est super chouette, venez, hein, parce que ça sera AG apéro. Ça va pas durer très longtemps, je pense, l'AG, parce que bah, vu qu'on n'a pas fait grand-chose, le bilan va être vite fait.
Mais l'idée, c'est de recruter des nouveaux membres, voilà, et de lancer
si
des nouvelles choses.
Si ça vous motive, venez, quoi.
Okay. Sachant qu'en plus, en 2026, ce sera les 10 ans de l'assaut.
Ouais, c'est ça, l'année prochaine, c'est nos 10 ans en février, là.
Ok.
Donc, ce serait bien qu'on y arrive avec des gens... motivé comme avant, quoi. Voilà.
Et est-ce que la bière qui est produite, elle a un nom?
Bah alors en fait, les noms, on les choisit toujours avec les personnes qui sont présentes. Et on a des petits thèmes, quoi. Donc on fait pas mal de jeux de mots. Et après, sinon... Ouais, on fait toujours, par contre, on fait toujours des bières différentes. Hein, donc, et les bières de la Gaule, bon, il y a toujours des gens qui nous demandent des fois, vous pouvez pas les acheter. Hein, c'est vraiment la seule façon de boire la bière de la Gaule, c'est maintenant, en tout cas, de venir la produire. Ou de venir à l'apéro, parce qu'on en sortira quelques-unes quand même.
Une bière donc qui se mérite.
Ouais.
Merci beaucoup David d'être venu nous en parler. Donc rendez-vous samedi 29 novembre à Colobrière pour brasser ensemble dès 10h du matin.
Ouais.
À bientôt.
Marche, super. Merci.
Salut. Ciao.
I'm a traveler, but my memories will never die. So I won't forget you, du bleibst immer da. Es ist fest in meinem Kopf, fast im Platz geschaffen. Für immer und ewig, even I will come back to ya. Soy el mar, du la roca que se va a quedar. Cierro mis ojos, du estás ahí. And I see you permanently close to me. You and I to the day we die.
Please remember, don't you think the sound is coming again?
I'm a traveler, that's the way, and you won't change. Always on the road, crossing land, crossing mountain. And I left behind what's important to me. Got no choice more than once, I left behind my destiny. Life is testing me, I try to be comically. Keep your truth all exposed deep inside of me. And outside, I will try to show some movement. Yin and yang, I will never quit to improve.
Please remember, don't you think the sound is coming again? Please remember, just you and me.
Yeah, lost what I had, but I got what I need. I'm breathing, find a way to make it succeed. The time passed, new experience gon' feed my brain. Yeah, lost what I had, but I got what I need. Find me on the way, you never seen me before. I'm leaving you, you're leaving, missed it by the doubt. The time passed, new experience. I lost what I had, but find me on the way, you never seen me before. I'm leaving you, you're leaving me. The time passed, new experience. Yeah, I lost what I had, but find me on the way, you never seen me before. I'm leaving you, you're leaving me. The time passed, new experience. Cause I'm a traveler.
So please, yes, I'm a traveler. Your heart was beating on the rhythms of stars and the sound of the boma.
To me, I'll be your night. êtes toujours à l'écoute de Midi et des Poussières. On vient de s'écouter Traveler de la Cafeteria Roya et Demon Kitirak de Katzenjammer. Et je te laisse la parole, Raphaël.
Merci beaucoup, Léo. Voilà, Midi et des Poussières, on est ravis d'accueillir aujourd'hui deux représentants de l'association Pierre Commune, Stéphane et Adrien. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Pierre Commune, c'est une association qui a pour objectif de répondre collectivement aux problématiques du logement à Florac. On en a déjà parlé sur cette antenne pour annoncer leur campagne de financement participatif qui est en cours. Avant de reparler de ça plus en détail, moi, je voulais revenir un peu sur l'historique de cette association. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment est née Pierre Commune ? À partir de quel constat, en fait ? Qu'est-ce qui a déclenché le besoin de monter une telle association ?
Bah, c'est un groupe de personnes qui se sont heurtées à des difficultés de logement, je dirais, ou qui avaient une conscience sur effectivement ces difficultés, même si eux-mêmes n'étaient pas affectés directement. Et donc, on a décidé de se réunir pour se dire, mais quelle est la solution ? Et notamment dans une ville comme Florac, une ville touristique, où bah, y a et une ville rurale où il y a vraiment des caractéristiques très affirmées de cette crise du logement, à savoir beaucoup de logements vacants, beaucoup de logements touristiques loués uniquement l'été, mais qui sont des passoires thermiques et qui ne sont pas exploitables à l'année. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui sont même au-dessus des minima sociaux, qui sont des salariés qui veulent travailler sur le territoire et qui ne peuvent pas se loger. Et donc, c'était un élément important. Qui nous a fait prendre conscience de bah, il fallait essayer de trouver des solutions, sachant que bah, les autorités publiques travaillent bah, sur les logements sociaux, par exemple, avec l'Auxerre Habitation. La commune essaye aussi, tant bien que mal, de rénover un certain nombre d'îlots comme l'îlot d'Ide. Mais ça prend beaucoup de temps avec le rythme administratif. Donc on s'est dit bah, il faut que les associations, la société civile aussi s'emparent du projet.
Oui, parce que le manque de logement, déjà, c'est bah, voilà, pour se loger, mais c'est aussi pour vraiment le développement local, en fait, pour faire vivre une ville. Quand il n'y a pas de logement, les personnes ne peuvent pas venir s'installer. Dans les petites villes rurales où il n'y a pas un renouvellement naturel de la population, bah, y a un déclin du nombre d'habitants. Donc l'enjeu, il n'est pas seulement pour loger les gens, mais il est aussi pour faire vivre la ville.
Bah oui, il y a une espèce de dilemme à tous les niveaux, hein, au niveau de l'État, au niveau des collectivités publiques, qui est à la fois ce développement du tourisme qui a été très fort en France. On est la première destination touristique. Hein,
la France en général.
Dans le monde, dans oui, le monde ouais. Avec près de 100 millions de touristes qui viennent chaque année. Donc c'est énorme. Et du coup, bah, ça a permis notamment pour des plateformes comme Airbnb de se développer. Et la France, c'est le deuxième pays après les États-Unis qui accueille un nombre de logements saisonniers. Et ça rapporte beaucoup d'argent, effectivement, à un certain nombre de propriétaires, à des collectivités publiques. Mais en même temps, quand on fait ça, bah, y a le risque, c'est la désertification, notamment en zone rurale, des centres-bourgs, parce que du coup, bah, c'est des touristes qui passent, mais qui ne restent pas à l'année. Donc, il y a un nécessaire arbitrage à faire entre ces deux politiques, la politique du tourisme et la politique du logement. Et voilà. Et nous, on essaie d'aller dans le sens d'une politique de développement du logement pour redynamiser les centres-bourgs.
Voilà, parce que les commerces et les services publics, les écoles, les crèches, c'est pas les touristes qui les font vivre à l'année. Et alors, la situation précisément à Florac, donc on peut citer quelques chiffres. Je les ai trouvés sur le site internet hein, de Pierre Commune. Donc, c'est des chiffres qui datent de 2021 de l'INSEE. Peut-être qu'ils ont évolué depuis, mais je crois que la tendance reste la même. Donc, il y a 30,3% de résidences secondaires à Florac et 8,6% de logements vacants. Donc ça laisse 61,1% de résidences principales. Est-ce que c'est beaucoup, peu par rapport à la moyenne française ? Est-ce que vous savez ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces chiffres-là ?
Bah, je pense que c'est assez représentatif de villes rurales touristiques. On n'est pas les seuls dans cette situation. Mais je pense qu'en même temps, ces chiffres, je ne sais pas s'ils sont... très expressif parce que quand on dit 60% de résidences principales, mais il y en a combien qui sont effectivement habités, qui ne sont pas en fait des bâtiments qui sont un peu en déshérence.
Passoires thermiques, comme vous disiez tout à l'heure.
Voilà, qui sont des passoires thermiques. Donc, il faut aussi prendre conscience de ça. Il y a aussi l'aspect qualitatif des différents bâtiments qui n'est pas vraiment révélé par ces chiffres.
Et alors, Pierre Commune, donc on a compris voilà, le constat qui a mené à la naissance de cette structure. Mais alors, quelles sont les missions et quels sont les objectifs, Adrien ?
Eh bien, on a pour objectif de créer une foncière solidaire
c'est-à-dire une structure qui possède des propriétés, et ça dans le but de faire du logement à l'année.
Pour acquérir donc des logements.
Acquérir, où il y a plusieurs modes d'acquisition possibles, mais on va dire que le but c'est d'avoir plusieurs logements à terme et pouvoir les louer à l'année, et en particulier dans le centre-bourg, là où il y a le plus besoin et là où il y a sans doute le plus de logements vacants par rapport à la moyenne de la commune.
Et alors, comment vous faites pour vous prospecter, pour trouver, pour mettre la main sur les logements vacants? Comment est-ce que vous faites?
Alors, pour l'instant, déjà, on s'occupe d'un logement. Okay. C'est déjà tout un chantier.
Ouais.
Étant donné que, en fait, on a encore un petit collectif. Et disons que, comment dire, on essaye de tester le collectif et de voir comment on va pouvoir développer notre modèle de foncière solidaire à partir de ce premier logement. Ça nous permet déjà de nous organiser.
C'est un peu l'appartement témoin, c'est comme ça que vous l'appelez, je crois.
Voilà, c'est ça.
Et donc l'idée, c'est de, avec cet appartement-là, alors il appartenait à un propriétaire particulier à qui vous êtes en train de le racheter.
Exactement.
Ok. Et donc l'idée, c'est de le réhabiliter, donc de faire un chantier pour le rendre habitable, c'est ça?
Voilà, c'est okay. En cours. Nous, on l'a récupéré en février dernier. Et depuis, on avance. Il y avait déjà des travaux de gros œuvres qui avaient été faits. Et nous, on fait des enduits, des cloisons, on démonte des vieux parquets, on a décrouté des murs. Et souvent, il y a peut-être une partie des chantiers qui se fait sous forme participative, où on fait appel à des bénévoles qui, pour certaines sont assez récurrentes. Et
vous, d'ailleurs, je me demandais, tous les deux qui êtes là aujourd'hui, vous êtes impliqués à quel titre au sein de l'association Pierre Commune? Vous êtes bénévole ou est-ce qu'il y a des salariés? Comment ça fonctionne?
Alors, effectivement, ça a été un débat, ça, au début de la constitution du collectif, quand il n'était pas encore une personne juridique formalisée. Maintenant, on est devenu une association. Et peut-être qu'à terme, on sera une SIC, on verra quand on sera une foncière.
C'est société d'un... Non.
Une société d'intérêt collectif. Et donc, on a eu un débat sur le fait de dire, est-ce qu'on est vraiment une structure associative ou est-ce qu'on on s'oriente vers une structure entrepreneuriale, sachant qu'il y a beaucoup de questions qui impliquent d'être assez professionnel, hein, dans le bâtiment, en termes de sécurité, même de garantie décennale, en termes de gestion, de modèle économique,
Il faut être habilité aussi à faire certains types de travaux.
Alors ça c'est plutôt, il y a les artisans, etc. Mmh. Mais il y a des aspects techniques, juridiques qui sont assez complexes et qu'il faut arriver à maîtriser. Et on n'a pas toujours les compétences chez les bénévoles qui se présentent. Donc du coup, on s'est dit, on va accepter aussi bien des bénévoles que des prestataires. On n'est pas dans une logique où on a des salariés à ce stade, parce qu'on n'a pas encore les reins assez solides. Et donc, on a plutôt un certain nombre de bénévoles aussi qui fournissent des prestations. Voilà. Et qui sont aussi membres du CA. Et ce qui fait qu'actuellement, on n'a pas encore le statut d'association d'intérêt général. Mais on va essayer d'évoluer vers ça en ayant plus que une structure où il n'y aura plus que des bénévoles qui agissent dans une logique totalement désintéressée. Là, on a des prestataires qui sont membres du CA et qui peuvent... Mais par contre, on a une structure de gouvernance de décision qui fait qu'ils n'ont pas le droit de participer aux décisions qui concernent leurs prestations. Donc c'est comme ça qu'on assure une espèce de transparence et qu'on évite les conflits d'intérêts dans la structure. Voilà. Et donc nous, on est... moi, j'interviens à titre bénévole. Je m'occupe des questions juridiques et des questions des relations avec les banques. Et puis j'essaie de donner un coup de main régulièrement sur les chantiers.
Voilà. Et Adrien, toi aussi, tu es aussi bénévole.
Moi, ça m'arrive d'être prestataire pour l'association. Bon, pour l'instant, c'est encore compliqué pour se payer, mais c'est pas l'objectif. En fait, c'était plutôt de comment faire pour dégager suffisamment de temps tout en sans parallèle avoir du mal à se payer dans la vie quotidienne, quoi. C'est pas dans un objectif de... Comment dire? Cette structure n'a pas pour objectif de se faire de l'argent, quoi. C'est juste que là, il y avait besoin de dégager du temps, notamment sur le chantier. Et à force de faire des centaines d'heures, en fait, on
oui, voilà,
ne peut pas tout faire bénévolement. Quoi.
Bah oui, parce que ça occupe du temps dans la journée et au détriment d'un autre travail, donc ça semble assez logique.
C'est aussi pour ça que les gens sont dans une situation différente, parce qu'il y en a qui ont des revenus par ailleurs qui leur permettent d'être totalement bénévoles et d'autres moins. Donc voilà, il y a cette logique-là.
Ça rééquilibre les engagements de chacun.
Exactement.
Et je voulais revenir un peu sur la notion de logement et d'habitation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, habiter ? Parce que là, il ne s'agit pas juste de permettre à des gens d'avoir un toit sur leur tête, c'est aussi, ça va au-delà, non ? Ça permet à des gens de pouvoir s'ancrer sur un territoire. Enfin, comment est-ce que vous percevez cette notion de logement, d'habitation ?
Bah, je vais peut-être intervenir en premier, mais je vais laisser après à Adrien voir quelle est sa conception. Nous, on avait effectivement une logique où on s'est dit on veut louer à des personnes qui ont un peu un projet de territoire. Donc, ils veulent qu'on ait vraiment un objectif de vie, de s'installer à l'année et de participer à la vie collective. Alors, on n'en est pas encore au stade où on est en train de mettre en place des critères objectifs de recrutement, parce que la question va se poser, puisqu'il faut d'abord qu'on finisse les travaux.
Oui, des CV de locataires que vous allez étudier pour voir qui.
Mais cette question va se poser et elle va être très délicate. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, quand on fait une levée de fonds et qu'on demande à des gens, donnez-nous de l'argent pour un logement, ils n'ont pas envie qu'ensuite ça soit une magouille entre copains et qu'on file le logement à n'importe qui. Donc, ils veulent qu'il y ait une transparence. Et des critères objectifs. Donc ça, on va le mettre en place et ça sera transparent sur le site internet de Pierre Commune. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des gens qui ont vraiment envie de participer à la vie du territoire. Ensuite, il y a cette question de est-ce que dans le cadre de cette foncière solidaire, on ne veut pas aussi revoir le modèle des relations entre les propriétaires qui est bailleurs et les locataires. De façon à ce que, comme dans une AMAP maraîchère où les gens qui sont dans une AMAP, ils participent à l'activité agricole du maraîcher, là aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à ce que y ait une condition de partage des valeurs et de participer à un certain nombre d'opérations de maintenance dans les biens qu'on mettra en location. Donc voilà, il y a une réflexion qui est en cours, qui n'est pas encore du tout finalisée, pour justement voir un peu cette notion d'habiter un territoire. Alors, je ne sais pas si tu veux compléter.
Oui, Adrien.
Moi, c'est plus à l'échelle du logement en tant que tel. En fait, peut-être on peut dire que se loger, c'est vraiment mettre quelqu'un dans une boîte et récupérer des sous derrière et juste que cette personne puisse avoir un toit sur la tête. Et là, on est plutôt dans une démarche où on essaye au maximum, avec les fonds qu'on a aujourd'hui, d'œuvrer pour avoir du logement assez qualitatif à tous les niveaux, en termes de confort thermique, en termes de ressenti vis-à-vis des matériaux qu'on utilise. Je pense que...
Se sentir bien chez soi.
Oui. Parce qu'on a peut-être pas, tu l'as peut-être pas dit, mais on essaie quand même du 100%, mais d'utiliser pas mal de matériaux biosourcés quand même.
On essaye de tendre au maximum vers une utilisation de matériaux qui ne viennent pas de l'industrialisation ou de la mondialisation. Donc en fait, ça va être des matériaux, c'est pas toujours local. En fait, le biosourcé, c'est et local, et faire une rénovation entièrement comme ça, c'est impossible. On est toujours obligé d'utiliser de la quincaillerie, des trucs qui viennent de Syrie. Même les Syries, le bois qu'on récupère, il n'est pas forcément local. En fait, voilà,
on
tend vers ça, mais au maximum, on fait des enduits en chaux chanvre, par exemple. On utilise de la laine de bois, il y a des revêtements, des finitions bois au plafond à certains endroits. Il y a un escalier en bois qui a été fait par un menuisier local avec du bois a priori local.
Et je voulais avoir votre avis sur ce qui se passe actuellement au pont de Montvert, où en fait, donc c'est une commune de Lozère aussi, pas très loin d'ici, où il y a 600 habitants. Et face à la pénurie de logements, en fait, c'est la mairie qui a lancé la construction de 18 logements sociaux et qui a investi 2 millions d'euros là-dedans. Et donc l'enjeu, c'était de faciliter l'installation de nouveaux habitants et aussi, comme on le disait tout à l'heure, de garantir la pérennité des services publics pour que l'école, la crèche, les commerces restent ouverts. Là, il y a un peu on a l'impression que les valeurs rejoignent celles de Pierre Commune, sauf que c'est à l'initiative de la mairie, du maire, du pont de Montvert. Est-ce que vous suivez ça? Ou est-ce que vous suivez ce qui se passe là-bas? Et est-ce que la mairie de Florac pourrait faire elle-même aussi un tel investissement?
Alors la mairie, alors moi je suis aussi, pour être transparent, je suis aussi membre de l'équipe municipale, du conseil municipal de Florac. Donc la mairie, elle a participé effectivement à des initiatives de rénovation immobilière aussi. Mais il faut savoir, alors moi j'étais pas directement impliqué dans ces projets, hein, donc je suis assez périphérique dans ces projets. Mais ce que j'ai constaté en tant que conseiller municipal de base, on va dire, c'est que il y a un temps administratif qui est très long. Et avec des normes réglementaires importantes et des tarifs qui font qu'on est dans une logique de marché public. Et on sait que quand on est dans une logique de marché public, les prix augmentent de 30% par rapport au prix d'un particulier. Donc voilà, ça prend un certain temps, ça coûte assez cher, ça demande de l'énergie de la part des équipes municipales. C'est pas toujours évident de l'avoir et sur le long terme. Donc c'est très bien. Mais c'est pas forcément suffisant. Donc voilà, il s'agit pas d'essayer de hiérarchiser ou de. C'est vraiment des approches complémentaires et qui sont utiles et il faut que tout le monde s'y mette. Donc voilà, nous on conçoit. Personnellement, moi je conçois l'action de l'association comme en complément et comme une structure qui va être un peu plus agile. Qui va permettre peut-être parfois de faire un peu plus qualitatif parce qu'elle utilise du chantier participatif, elle utilise du recyclage, ce qui est beaucoup plus compliqué pour une collectivité publique. Voilà. Donc ça nous permet de venir en complément. Et alors ensuite, comment est-ce que ça va être reproductible ? Ça, on va le voir, parce que ce qu'a dit Adrien, c'est on fait un chantier test et on va voir, parce que derrière, il y a toute la question du financement qui n'est pas évidente.
On va en parler maintenant d'ailleurs, le financement. Vous avez lancé une campagne de financement participatif, donc pour permettre à en tout cas cet appartement témoin là de voir le jour et de pouvoir être loué. Alors où vous en êtes ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Adrien ?
Il n'y a pas 36 solutions.
Il faut sortir le carnet de chèques.
Non mais c'est... En fait, n'importe quel don, il est toujours le bienvenu. Là, on a mis des dons à partir de 20 euros, mais il y a des gens qui avaient peut-être plus de moyens, qui nous ont déjà donné davantage. En fait, on a un objectif de 70 000 euros, et c'est pas uniquement pour financer ce premier logement. En fait, c'est aussi pour structurer la foncière dans le temps, et en imaginant que ce modèle il puisse prendre davantage de place sur ici à Florac en Lozère, mais ça pourrait prendre ça. C'est une forme de structure qui pourrait se développer dans d'autres centres-bourgs de la même échelle. Et voilà. Donc, on appelle à des dons actuellement. Là, on en est à 13 000 euros à peu près. On n'aura certainement pas les 70 000 d'ici 10 jours, mais c'est
parce
déjà...
Parce que ça dure jusqu'à... La campagne se clôt dans 10
Elle
jours.
Elle se clôt le 5 décembre. Ouais. Voilà, donc vous avez jusqu'au 5 décembre pour pouvoir participer dessus. Après, toute aide, en fait, si... Tout est des bienvenus aussi, on est toujours à la recherche de bénévoles sur le chantier, des gens qui ont soit envie d'apprendre, soit envie de donner un peu de leur temps, soit un peu des deux. Voilà.
Et qu'est-ce que je voulais dire ? Comment est-ce qu'on peut suivre donc, l'avancée ? Et aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, une fois que le chantier sera terminé, que l'appartement sera prêt à être habité, comment est-ce qu'on peut suivre tous les débats qu'il y aura, les questions, les critères de à qui ce sera loué ? Comment est-ce qu'on peut aussi se maintenir au courant des grandes questions qui agitent l'association, toutes ces réflexions-là ?
Bah, disons que déjà, en venant rejoindre l'association, c'est un peu le meilleur moyen, hein, puisque on a des. Alors pour le moment, on a des CA réguliers, on va avoir une prochaine assemblée générale, et puis les gens peuvent venir participer au chantier participatif. Donc il faut aller voir sur le site de Pierre Commune, hein, c'est
www.pierrecommune.fr.
Hein.
Pierre Commune, tout attaché au pluriel.
Voilà. Et donc là, en allant sur le site. Vous avez déjà un certain nombre d'infos qu'on va enrichir. Si vous êtes adhérent, vous recevez une infolettre ou newsletter régulière qui fait état un peu des derniers développements. Donc voilà, ça c'est un bon moyen de suivre. Sinon, alors ensuite, actuellement, il y a Hello Asso sur lequel on a notre levée de campagne qui aussi donne des informations sur les derniers développements. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas si vous aviez envie d'ajouter quelque chose. En tout cas, on était ravis de vous entendre et on va suivre le projet de près et vous revenez quand vous voulez pour en reparler parce que c'est très intéressant à suivre et ça raconte aussi beaucoup de choses sur les villes qu'on habite et comment est-ce qu'on veut les habiter. Merci beaucoup.
Merci Raphaël.
Dans mon jardin, mais j'ai pas de jardin. J'ai pas de maison.
On écoutait à l'instant France Gall avec ce si beau titre, La Rose des Vents. Et c'est l'heure du rendez-vous du jour. Alors aujourd'hui, le rendez-vous du jour que je vous annonce, c'est la soirée d'ouverture du festival Cinéma pour tous, festival de la nouvelle dimension, l'association de cinéma et d'éducation à l'image de Florac. Alors le festival, il s'ouvre donc ce mercredi 26 novembre et il se poursuivra jusqu'au samedi 29 avec des projections dans divers endroits en Lozère. Et ce soir, ça se passe au cinéma Le Trianon à Mende. Cette année, la thématique du festival, c'est la santé mentale et sa représentation à l'écran. Et le film d'ouverture ce soir, c'est le documentaire Billy de la cinéaste québécoise Laurence Côté-Collins. Avec ce film, qui relève carrément de l'expérience de vie, la cinéaste entreprend une démarche profondément personnelle et réparatrice en reprenant contact avec son agresseur, incarcéré après une crise psychotique. Elle le retrouve en prison et elle veut comprendre, pardonner et accompagner un homme souffrant. Billy est schizophrène et sa plus grave crise a laissé deux morts. Leur relation d'amitié carcérale épistolaire met en lumière la vérité sur cette maladie mentale qui n'était ni diagnostiquée ni soignée. Ensemble, ils se racontent et se reconstruisent à travers une correspondance intime et des archives vidéo inédites. On écoute tout de suite la bande-annonce du film.
J'ai décidé de faire une vidéo avec ma nouvelle caméra pour toi. Qui écoute présentement.
Mon but, provoquer le spectateur.
En décembre 2012, j'ai appris aux nouvelles que Billy avait été arrêté.
Il est accusé de vol de véhicule puis de deux morts. Fait que je veux savoir avec qui c'est que j'ai affaire.
Tu peux pas m'aider, il est trop tard.
Chère Laurence, je suis en prison. J'écris à des gens qui me répondent pas.
Je m'en fous à cette heure. Je m'en fous d'entendre des voix. Je m'en fous qu'il y ait du monde partout.
J'ai découvert à ce moment-là que Billy était schizophrène. 3, 4!
je pensais à ça l'autre jour, puis j'ai une idée. Je me suis dit que peut-être qu'on pourrait reproduire ce que j'entends quand j'hallucine.
Chris, ça va faire quoi? Ils vont penser que je suis le démon, que je suis l'antéchrist, calice.
Si tu fais une psychose, c'est direct l'hôpital.
J'ai accepté de reprendre contact avec lui pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais vraiment savoir pourquoi il m'avait attaqué.
Willy!
J'ai entendu quelque part que tuer quelqu'un, c'était s'en prendre dans sa propre vie. Je peux dire que je comprends ça.
Billy, on va se tenir par la main, toi puis moi, debout, dans la lumière. On va dire la vérité. On va dire ta vérité, on va dire ma vérité. Puis on va espérer que pour d'autres personnes qui souffrent ou pour d'autres victimes, ça se passe mieux.
Billy de Lawrence Côté Collins, c'était le rendez-vous du jour. C'est ce mercredi 26 novembre au cinéma Le Trianon de Mende à 20h30 et la séance sera suivie d'une rencontre par visio avec la réalisatrice. Et comme on parle cinéma, j'en profite pour annoncer que la semaine prochaine, Cinéco, l'association de cinéma itinérante en Cévennes, aura une rubrique tous les mercredis pour mettre en lumière un film de sa programmation. On a hâte de les entendre. Cinéco, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent bien, mais j'avais envie de dire un mot sur cette association car elle fait un travail vraiment génial d'amener le cinéma dans plein de villes en Cévennes avec une programmation éclectique, exigeante, des films dits art et essai, mais aussi du cinéma tout public et ouvert sur les différentes cultures du monde avec des films récents. On peut voir des films peu de temps après leur sortie officielle. Cinéco, c'est pour cinéma et pour collectif. L'association compte une petite dizaine de salariés et fonctionne grâce à l'investissement très important de nombreux bénévoles qui assurent un grand nombre des projections. Et des spectateurs sans cinéma ne seraient pas des spectateurs. La réciproque est aussi vraie. Et sur son site internet, sur le site internet de Cinéco, Mireille Rousseau, la présidente, tient à remercier les spectateurs qui viennent en salle et qui permettent au cinéma d'exister en Cévennes. Et elle partage cette magnifique citation de Marguerite Duras dans son roman Barrage contre le Pacifique, qui décrivait l'émotion d'une spectatrice assise dans une salle de cinéma. Alors je vous la lis. La lumière s'éteignit, Suzanne se sentit désormais invisible, invincible et se mit à pleurer de bonheur. C'était l'oasis, la salle noire de l'après-midi, la grande nuit égalitaire du cinéma, plus vraie que la vraie nuit, la nuit choisie, ouverte à tous, offerte à tous.
Personne pour sécher mes larmes au cinéma. Personne pour sécher mes larmes au cinéma. Personne pour sécher mes larmes au cinéma. Personne pour sécher mes larmes au cinéma.
C'était le morceau « Mes larmes » de Jean-Luc Le Ténia sur Radio Bartas.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et nouvelle rubrique sur Radio Bartas, le Nicoroscope. C'est Nico qui nous proposera dès aujourd'hui, chaque mercredi, son interprétation toute personnelle des astres et autres entités stéloplanétaires.
L'horoscope ou le moroscope, c'est selon. L'horoscope sur Radio Satrab, Bartas, pardon.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Raphaël.
Bienvenue dans Midi et des Poussières. Tu nous proposes une nouvelle chronique qu'on espère la plus régulière possible. On verra, les astres peut-être nous le diront. C'est un horoscope que tu nous proposes.
Alors, il y a les heureuscopes et les moroscopes. Donc aujourd'hui, c'est un horoscope que je vous propose. Et nous commençons tout de suite par les Gémeaux.
Ah bah je suis Gémeaux, ça tombe bien.
Mais c'est dingue. Premier décan, non. Les tartines ne tombent pas toujours sur le côté de la confiture. Car les astres vous ont prédit des choses extraordinaires, notamment Vénus et Saturne. Si vous testez d'autres confitures, par exemple à l'abricot, à la myrtille ou même la sauce tomate, eh bien figurez-vous que peut-être, peut-être, je dis bien, vous allez rencontrer de nouvelles saveurs. Je dis n'importe quoi, bien sûr. Non, ça dépend vraiment de Vénus et ça dépend aussi de la température ambiante qui fait. Hein. C'est évident que tout ça est à prendre en compte dans l'horoscope. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous testez d'autres confitures sur vos tartines, il y a de fortes chances qu'elles tombent toujours sur le bon côté. Voilà. Et si vous testez la sauce tomate avec des spaghettis, par contre là, pour les deuxièmes décans, là c'est sûr que le plat va atterrir sur le parquet immanquablement. Du mauvais côté. Donc, pour les deuxièmes décans Gémeaux, surtout ne mangez pas de spaghettis et ne laissez pas tomber des spaghettis sur le parquet. Auquel cas, ce plat de spaghettis pourrait tomber sur le parquet, figurez-vous que peut-être un inconnu pourra vous déclarer sa flamme. Mais attention, qui dit parquet et qui dit flamme, dit incendie. Ne dansez pas de manière incongrue dans un incendie. Pour les troisièmes décans surtout. Bref, en résumé, restez au régime, aux tartines, au beurre, même sans la confiture. Ne prenez plus aucun risque. Ne mangez pas de spaghettis. Et si un inconnu vous déclare sa flamme, foutez-lui le feu.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine pour les cancers.
Ou les balances.
Voilà, c'était l'horoscope cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine, ce sera le moroscope. On verra, on ne peut jamais savoir avec le nicoroscope. Avant de se quitter, c'est l'heure du désormais traditionnel point météo avec Léo. C'est la météo de Léo sur Radio Bartas.
Aujourd'hui, une grande vague de fatigue est annoncée sur Florac. Ça se ressent dans la manière générale des choses. On a vu hier des émissions oubliées de mettre en ligne. Aujourd'hui, des annonces faites avec laboriosité. Ça se dit laboriosité. C'était laborieux. Ouais. Et même moi, là, je suis encore laborieux. C'était la météo du jour. Bonne fatigue à vous.
Voilà, il va aller se recoucher, Léo. C'est la fin de cette émission. Moi, je vous retrouve. On vous retrouve mardi prochain. Car finalement, midi et des poussières sera diffusé tous les mardis, mercredis et jeudis et non pas les lundis, mardis et mercredis comme c'était le cas cette semaine. Petit ajustement dû au lancement de la nouvelle grille. Je vous avais bien dit qu'il y aurait quelques poussières dans la machine. Rendez-vous donc mardi 2 décembre, toujours à midi et des poussières, c'est-à-dire après les infos de RFI. Et en attendant, restez à l'écoute de Radio Bartas sur le 107FM ou sur radiobartas.net. À 13h30, ce sera les annonces du milieu de semaine enregistrées avec beaucoup de fatigue, comme vous le disait Léo. À 15h, vous retrouverez Jacqueline pour son émission Le Chaudron des Découvertes. À 17h, ce sera l'heure de l'émission Du Poil sous les bras, un entretien avec une personnalité qui, grâce à son apport théorique ou pratique, nous aide à comprendre les systèmes de domination et à agir pour plus d'égalité, d'équité et d'éthique. Bon après-midi sur Radio Bartas.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.